I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pour moi, le cool, c'est les gens qui ont leur propre idée, leur propre style, leur propre mode de vie.
Pour moi, être cool, c'est avant tout être dans un bon mood et tout.
Bon, tu peux ressembler à un tout faire, littéralement, et être cool. Hein.
Ouais.
Regardez Robin sur le réseau, il ressemble à rien, enfin, il est cool. Hein. Voilà.
Être cool, ça veut dire être sympa avec les gens. Ça veut dire que le respect, il est là, tu vois.
Bah non, je sais pas.
Écoute, être cool pour moi, c'est être comme moi.
Et si on laissait tomber l'élégance de Chiffon le podcast pour parler du cool? Oui, le cool. Qui est cool? Qu'est-ce que le cool? Où est le cool? C'est exactement ce que nous dirons dans Fashion Gasoil. Fashion Gasoil, un magazine en ligne, mais aussi un podcast. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que le cool? On y va? C'est parti! Pour ce nouvel épisode du podcast de Fashion Gasoil, je vous embarque dans l'ouest de la France pour découvrir une entreprise familiale, l'entreprise Le Glazik, qui a été créée en 1928 par deux entrepreneurs quimpérois. Ainsi, vêtements marins, cabans et vareuses n'auront plus de secret pour vous. Cette entreprise a été créée en 1928 à Quimper. Le Glazik comme le petit bleu. Ça a été créé par deux copains de régiment au départ, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est Pierre Guichard, qui était représentant en tissu, en textile de manière générale, qui en revenant de régiment avec son ami Monsieur le Pape, a décidé en fait à partir d'un constat. Le constat qui était qu'il n'y avait pas en fait de fabrique de, vraiment industrialisée de vêtements marins. Puisque les femmes des marins fabriquaient elles-mêmes les vêtements pour leur mari, hein, pour qu'ils puissent partir en mer bien protégés. Donc à partir de ce constat-là, ils ont décidé de créer une vraie entreprise industrielle.
Pour soulager les femmes.
Exactement, c'est tout à fait actuel. C'est de dire que ce n'était pas un boulot réservé pour les femmes, c'était un boulot qui devait se professionnaliser et aussi apporter un vrai service, puisqu'il fallait que ce soit des vêtements très résistants qui durent dans le temps. C'était le durable avant l'heure parce qu'il ne fallait pas en changer tous les 4 matins. Et donc, du coup, à partir de ce constat-là, ils ont créé le Glazik, donc le petit bleu en breton. Hein, qui vient. Et puis, c'était aussi le nom de cette région autour de Quimper. Donc, une identité forte et un nom qui parlait à tout le monde.
Donc, ouais, tu me racontais que les gens, quand ils allaient chez le Glazik, disaient « on va au Glazik ».
Oui, c'est ça. C'est vraiment c'est devenu très rapidement une institution à travers le nom et à travers l'image qu'ils ont créée. Puisqu'en fait, le logo originel, qui est en forme hexagonale, qui est d'ailleurs une forme moderne aujourd'hui, représentait en fait le Glazik, c'est-à-dire le personnage breton avec sa pipe de marin, et puis son costume bleu vraiment authentique de cette région-là. Chose qu'ils ont fait aussi pour le vendeur sur les marchés, c'est-à-dire qu'ils l'ont habillé de cette façon-là aussi pour créer cette image de marque. Et donc, du coup, très rapidement, vu qu'ils étaient situés dans le cœur de Quimper, donc dans le quartier du Moulin Vert, c'est ça, hein,
oui.
Qui était rue du Pontigou. Au cœur de Quimper, ils ont employé énormément de...
Oui, c'est vraiment une manufacture en plein cœur de Quimper.
Ouais, c'est ça, ils ont vraiment créé un bâtiment exprès pour ça, hein, puisque ça n'existait pas. Et d'ailleurs, la maison familiale de Pierre Guichard était sur la propriété aussi. Et donc, du coup, c'était très rapidement l'emploi principal des femmes de la région, parce que dans le textile, c'était de toute façon historiquement que des femmes. Et à travers le nom, voilà, très rapidement, ça a été connu.
Puis après, lui, il a été extrêmement fort avec la publicité.
Oui, c'est ça, c'est un visionnaire. Il avait compris très, très rapidement, dès le début, quasiment dès 1928, qu'il fallait créer une image de marque, donc à travers aussi son logo.
Mais il a créé une marque,
ouais,
lui, c'est ça. Dit, voilà.
C'était pas juste la manufacture, c'était la marque. Donc il a fait énormément de publicité très très vite, sur un peu le modèle américain qui l'avait certainement inspiré. Et donc du coup, à travers plein d'objets publicitaires. Objets publicitaires qui étaient vraiment divers et variés. Hein. Ça allait vraiment... du panneau en carton ou en métal qu'on pouvait mettre dans la rue. C'était aussi les petits objets du quotidien.
Ça, c'était fort, les objets qui déposaient dans les bars de retour des pêcheurs.
Exactement, c'est-à-dire que c'était le tapis de jeu de cartes avec le jeu de cartes siglé pour la marque. C'était le cendrier où on pouvait poser la pipe du marin. C'était aussi peut-être les boîtes d'allumettes, ça, on n'en a pas retrouvé, mais... Voilà, c'était énormément de choses de cet acabit-là. C'était aussi des objets qu'on pouvait ramener chez soi, hein, à travers des brosses à vêtements. Alors, il avait fait aussi des tasses à café, la petite assiette et la tasse à café, parce que évidemment dans les cafés, c'était aussi un très bon moyen pour ceux qui ne fumaient pas ou qui ne jouaient pas aux cartes de toucher le reste du public. Donc non, et très rapidement, beaucoup de publicité et une image très forte partout et au maximum. C'est-à-dire, même si la manufacture était au cœur de Quimper, il avait aussi siglé son camion, c'était un des premiers, au nom de la marque. Et comme elle faisait des livraisons un peu partout dans la région, c'était le meilleur moyen aussi de diffuser cette image.
Et sur les marchés aussi.
Sur le marché de Quimper et les marchés aux alentours. Ouais. Donc il habillait, comme je disais, son commercial aux couleurs du glazik et d'après l'habit authentique du pays glazik. Et puis évidemment, très rapidement, les marins portant leur vareuse avec en plus à terre le logo qui était apparent, puisqu'il était sur les poches intérieures, qui était du coup à l'extérieur à terre. Du coup, c'était pareil, c'était une diffusion de la marque très intéressante aussi pour eux.
Alors oui, explique pour... Ah oui, c'est ce qu'on le verra tout à l'heure, mais avec les... Comment dirais-je, avec la vareuse. La vareuse, le marin inversait sa vareuse, quand il...
Oui, c'est ça, c'est le côté travail, donc vraiment fonctionnel, donc qui était le côté classique, hein, où le bouton et les poches étaient à l'intérieur pour éviter de s'accrocher. Et le côté terre, donc qui était toujours le côté propre et le côté moins usé, c'était un peu le côté aussi habit du dimanche, c'est-à-dire qu'on s'habillait bien pour se présenter en société, donc avec les poches à l'extérieur et le bouton apparent, donc le bouton siglé en cuivre, bien voyant, et le logo sur la poche intérieure, du coup, qui était à l'extérieur puisqu'on la portait à l'envers.
Alors, dans les années 30, la marque Le Glazik est devenue un incontournable du paysage breton.
Oui, c'est-à-dire que c'était quasiment la seule à faire du vêtement marin, puisque les autres marques de la région étaient sur d'autres produits. Donc, Le Glazik, 1928, très rapidement, ça a été vraiment le fournisseur de tous les Bretons Sud-Cornouailles et au-delà. C'était une marque familiale, donc c'était pareil, c'était pas quelque chose de trop gros, c'était une dimension humaine, puisque Monsieur le Pape a rapidement quitté l'affaire en 1932 pour quitter la région, et du coup c'est sa fameuse génie en 1933 qui a repris la comptabilité, et ensuite ses filles qui ont fait soit des stages, soit sa fille Paulette ensuite qui a repris un peu l'affaire familiale au décès de Monsieur Pierre Guichard qui a été dans les milieux des années 60.
Alors, en plus, leur slogan colle parfaitement à cette famille. Le temps passera, le Glazik tiendra.
Oui, exactement. Donc, c'était cet engagement de qualité et de longévité des produits qui était très important pour les gens et les marins qui voulaient investir dans un vêtement solide, mais aussi quelque chose qui allait durer dans le temps, hein, puisque on n'était pas dans une société de consommation. Le vêtement coûtait quand même relativement cher pour un marin, donc il fallait que ça soit un vrai investissement. Et puis, c'était un engagement de l'entreprise. On a retrouvé certaines publicités qui disaient qu'il y avait une sorte de garantie, en fait. Hein, on pouvait revenir avec son vêtement s'il y avait un défaut. Donc, c'était vraiment cet engagement de l'entreprise. Et puis, voilà, c'est le vêtement de travail, c'était quelque chose qui était fait pour durer, quoi.
Ouais, et vêtement de travail qui s'est démocratisé dans les années 60, puisqu'on a commencé à avoir des marinières, bon, ça c'est sur des stars de cinéma comme un star de Brigitte Bardot, mais il est devenu aussi un vêtement de mode.
Oui,
on a commencé
ça,
à avoir des cabans, des vareuses sur la plage.
Oui, Monsieur Pierre Guichard, en fait, toujours visionnaire, à la fin de la guerre, fin des années 40, début des années 50, il avait déjà compris que le tourisme allait être vraiment quelque chose qui allait être très important pour la marque. Donc, il avait déjà initié avant tout le monde des premières collections de vêtements pour Monsieur Tout-le-Monde, pour les touristes, les vacances. Et donc, du coup, il a eu cette capacité d'offre tout de suite, dès que la demande est apparue. Et puis, effectivement, ça a été relayé par les stars. Donc, ça a été à travers la marinière, ça a été à travers
les Bermudas aussi.
Les Bermudas. Il y a en fait tous les produits dérivés qu'on retrouve aujourd'hui dans la gamme Le Glazik. C'était des produits vraiment, dès le départ, dès après-guerre. Et on l'a vu vraiment se démocratiser dans de très nombreuses marques dans les années 60-70, mais le Glazik a vraiment commencé dès les années 50.
Et tout était fait à l'époque encore à Quimper.
Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que de toute façon, c'était une entreprise familiale qui comptait sur ses ouvrières quimperoises. Et donc, c'était vraiment le côté famille aussi qui plaisait aux touristes et aussi aux locaux. Hein. Donc, c'est ce qui a fait la renommée du Glazik.
Alors, on va glisser un petit peu maintenant dans les détails de ces uniformes. Alors, l'uniforme du marin breton, donc, comme on a dit, c'est le caban, la vareuse et le pantalon.
C'est ça.
Alors, tous ces vêtements sont codifiés, c'est incroyable. Alors, on va commencer par le caban. Alors, j'ai appris que son origine, c'est sur votre site internet que j'ai vu ça, vient de chez les Bédouins du Sahel.
C'est ça. C'est-à-dire, en fait, au départ, les spécialistes estiment que l'étymologie de caban, ça vient de kaba, donc qui signifie tunique en arabe. Et les Portugais qui étaient en contact avec les Bédouins pour le commerce, en fait, vont rapporter cette idée de tunique. Ils vont rapporter aussi le mot. Et ils vont, par contre, en faire un manteau court en drap, évidemment, pour affronter l'océan. Et cette invention, entre guillemets, va se diffuser dans toutes les marines européennes, notamment la marine française, et puis bien sûr parmi les pêcheurs. Donc, ils vont vraiment créer un manteau qui est assez court pour faciliter le mouvement.
Ah oui, il y a plein de codes.
Voilà.
Donc, il est en drap de laine épais, enduit de suif et de goudron.
Voilà.
Au départ.
C'est-à-dire que pour assurer l'étanchéité, étant donné que lorsque les grains sont importants en Atlantique, il faut vraiment étanchéifier le drap. Et dans ce cas-là, on utilise ce qui est plus facile, le goudron et le suif, qu'on pouvait utiliser également pour étanchéifier des navires. Donc, on l'applique sur les cabans.
Mais ça devait être très lourd.
Très lourd et rigide, évidemment. Mais bon, à l'époque, voilà, il fallait que ça soit extrêmement fonctionnel. Je crois que c'est le mot pour tous les vêtements que l'on va voir. Ce sont des vêtements vraiment fonctionnels.
Des vêtements de professionnels au départ.
Voilà, et donc ils devaient répondre à un cahier des charges précis.
Parce que le caban, maintenant, c'est devenu un incontournable de l'hiver, on va voir ça.
Voilà.
Mais alors l'autre chose aussi, c'est le large col, 12 cm,
c'est ça.
Pour protéger le cou du marin.
Voilà, c'est-à-dire que pour protéger du vent, donc il faut qu'il ait un col vraiment important pour se protéger à la fois des embruns et du vent glacial. Mais il faut aussi que, si on descend pas plus bas, que le caban soit réversible. Parce que justement,
le caban était réversible.
De cette manière, il y a un côté gauche,
oui.
Et un côté droit.
Ah oui, boutonnage. Mais c'est le double boutonnage.
Voilà,
j'ai appris ça aussi.
Voilà.
Parce que c'était à fermer en fonction de la direction du vent.
C'est ça. C'est-à-dire que vous pouviez être deux quarts à tribord, donc vous étiez tribordais. Deux quarts à bâbord, vous étiez bâbordais.
Mm-hmm. Et en fonction on sent le professionnel de la mer, là.
Enfin, le professionnel du caban, on va dire, déjà. Donc, à ce moment-là, vous deviez fermer le caban en fonction de la direction opposée du vent pour vous protéger.
Et l'autre condition aussi, c'était qu'il était gravé à l'effigie de la Marine nationale.
Ah, voilà, les boutons, justement, parce que, comme on l'a dit, le caban va faire partie intégrante de la Marine nationale, enfin, de la Marine, à l'époque, du Second Empire. Donc, là encore, c'est décodifié. Et donc, pour distinguer le caban, comme ça fait partie de l'uniforme des marins de l'époque, les boutons vont avoir l'encre donc à l'effigie de la Marine nationale.
Et 6 boutons.
Voilà.
Pourquoi pas 8?
Parce que c'est un manteau assez court. Parce que
longueur mi-cuisse.
Voilà, c'est-à-dire qu'il faut que le marin ne soit pas gêné dans ses mouvements. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que c'est mi-cuisse, justement. Mm-hmm. Parce qu'il est amené à faire des opérations. Donc, il faut qu'il ne soit pas gêné dans ses mouvements, notamment au niveau des jambes.
Et au niveau des manches aussi.
Au niveau des manches également. Sachant que ça reste un manteau assez ample aussi, parce qu'il peut mettre des épaisseurs, parce qu'il ne faut pas qu'il soit contraint par le caban. Un caban qui serait trop serré. Donc c'est pour ça que nos cabans, notamment le Molène, est un caban assez ample par rapport à d'autres cabans qu'on trouve sur le marché, parce que justement c'est le volume, autrement dit authentique, en fait, du caban breton.
Alors maintenant, le Molène, justement, il est fabriqué aussi en drap de laine.
Voilà.
Mais j'imagine qu'il n'y a pas de goudron dedans.
Non, non. Alors notre caban n'est pas imperméable. Attention, il est déperlant. C'est-à-dire qu'il est imperméabilisé, parce que c'est un drap qui est extra lourd, donc assez dense. Donc, ça peut permettre d'affronter des pluies fines à modérées, mais il ne faut pas non plus le confondre avec un imperméable. Il ne faut pas y aller sous la pluie quand ça tombe, quand il tombe derrière la barbe.
Et même pour les marins ?
Alors, les marins d'aujourd'hui, maintenant, utilisent le ciré.
Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ma question était idiote. Mais,
Mais...
Et au niveau de le Molène, tel que vous le vendez aujourd'hui chez le Glazik, est-ce qu'il a aussi le double boutonnage, large col de 12 cm ? Vous avez tout respecté ?
Voilà, on l'a respecté à l'aide depuis 1928. Donc, la doublure aujourd'hui, bon, par contre, a un peu changé. Elle est en satin.
Mm-hmm. Avant, c'était quoi ?
Avant, ça pouvait être un tissu plus épais. Ce qu'ils avaient à l'époque, mais aujourd'hui, bon, avec la doublure satinée, c'est quand même plus léger, c'est plus doux toucher.
Et il y a combien de poches d'ailleurs ?
Il y en a deux, donc à l'intérieur, zippées, boutonnées. Les poches frontales sont à raglan, justement, parce qu'à l'époque, c'était justement pour renforcer l'entrée des poches.
Qu'est-ce que tu appelles raglan ?
Donc, c'est le morceau de tissu qui permet de renforcer l'entrée de la poche.
Alors, maintenant, on va parler de la vareuse.
Voilà.
La vareuse Le Glazik, tout le monde connaît. Qui ne connaît pas la vareuse Le Glazik ? Alors là aussi, j'ai appris plein de trucs. Au départ, comme tu disais tout à l'heure, les vareuses, c'était fabriqué à partir de des chutes de toile par les femmes. Alors Le Glazik, lui, pas Le Glazik, comment il s'appelle ?
Pierre Guichard.
Pierre Guichard a décidé de professionnaliser la chose. Et donc, qu'est-ce qu'il a utilisé comme toile au départ ?
Donc, il a utilisé une toile qui est vraiment résistante, comme celle que l'on utilise aujourd'hui, bon, sauf qu'elle est biologique, c'est ce qui a principalement changé. Donc, une toile, là aussi, dense, très résistante, justement, à l'usure du temps, à la déchirure, enfin, tout ce que pouvait subir le pêcheur sur son navire. Donc, c'est un vêtement, on va dire, plus d'été, une sorte de tunique, là encore, qui est assez court pour pas...
Ouais, alors là aussi, il y a des codes. Je vois les coutures rabattues, un empiècement particulier, poches à l'intérieur.
Exactement.
Et le bouton aussi à l'intérieur.
Le bouton à l'intérieur. Donc, les coutures sont rabattues, justement, pour que les coutures ne soient pas apparentes et qu'elles soient plus résistantes. Il y a un empiècement d'eau pour renforcer le dos, parce que lorsque le marin doit porter des charges, il faut que ça soit plus solide par rapport à d'autres professions. Les poches et le bouton sont intérieurs.
Alors pourquoi à l'intérieur ?
Parce qu'il ne faut pas que ça soit pris dans des drisses. Je n'ai pas dit cordage, mais il ne faut pas que ça soit pris dans les drisses lorsqu'il est sur son navire. Donc à l'intérieur, il n'y a aucun risque.
Mais alors j'ai vu qu'elle était réversible aussi.
Oui, effectivement. Donc c'était une des particularités de la vareuse, c'est-à-dire que c'était un vêtement fonctionnel, professionnel, mais qui pouvait être utilisé quand le pêcheur allait en ville, parce qu'il était assez fier justement de son vêtement. Et donc, il portait sur une face lorsqu'il était en mer, lorsqu'il travaillait, et lorsqu'il allait en ville, il la retournait pour présenter la face la plus propre.
Ah, d'accord. Alors, il y a aussi un truc intéressant, c'est le code de couleur.
Voilà, c'est-à-dire donc les marins pêcheurs traitaient on va commencer par les voiles, donc traitaient leur toile de voile de bateau. C'était une opération qui s'appelait le cachoutage, pour qu'elle soit justement résistante et imperméabilisée. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que la plupart des ports avaient chacun leur recette, justement pour teindre les toiles. Et ce qui faisait que chaque port avait plus ou moins sa propre couleur attitrée. Et comme les marins autrefois utilisaient donc les chutes de toile pour faire leurs vareuses, eh bien du coup ils avaient des vareuses qui étaient justement
ça permettait d'identifier.
Qui étaient particulières à chaque port en fait. Et donc du coup chaque marin pouvait s'identifier au loin à la couleur de la vareuse, identifier du coup de quel port il venait.
Mais port, petit port ou région ?
Alors, c'est difficile. On n'a pas encore trouvé de
mais parce qu'il y a un débat précises. Là-dessus. Hein.
Voilà, on n'a pas trouvé de traces vraiment précises si c'était des ports ou leur région ou si c'était des régions un peu plus importantes, des paroisses. Bon, les deux étaient de façon forcément liées.
Alors, il y a combien de couleurs en tout?
Alors, il y avait...
Il y avait, et on va parler de maintenant aussi.
Voilà, donc il y avait deux couleurs principales. Donc, il y avait les couleurs briques, notamment qui étaient reprises par certains ports, par les tonniers également, et puis la couleur marine, qui était la couleur du vêtement professionnel par excellence autrefois.
Tabarly aussi avait une marine.
Voilà, exactement. Tabarly. Voilà, ouais. Exactement. Et puis, bien sûr, il y avait toutes les déclinaisons du bleu, parce que justement, ce qui était intéressant avec la vareuse, c'était un vêtement qui vivait avec le temps.
Ça vit et puis ça se patine avec le temps, c'est ça qui est chouette.
Exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a différents bleus. On avait aussi la couleur un peu crevette qui reprend un peu le brick qui se délavait en haute mer. Puis bon, elle a étendu à plein d'autres couleurs.
Donc là, c'est maintenant. Voilà, aujourd'hui, ça existe. Là, je dois avoir une dizaine de couleurs, une dizaine de couleurs devant moi. Quelle est la couleur qui est la plus vendue?
C'est le brick, le navy, on va dire, parce que c'est le bleu, c'est ce qui est le plus intéressant pour tout le monde, mais aussi le brick qui fait vraiment authentique également.
Alors, il paraît que on porte plus le brick dans le sud-ouest et le bleu en Bretagne.
Il
y a des codes.
Il y a des codes qui perdurent encore aujourd'hui, que ce soit au niveau entre le Morbihan et le Finistère. Voilà, c'était pas les mêmes codes couleurs.
Et à qui vous vendez maintenant des vareuses, à part les marins pêcheurs, bien évidemment?
Alors, il y a quelques marins pêcheurs qui utilisent des vareuses, mais évidemment le plus gros contingent d'acheteurs sont précisément des consommateurs, donc des gens qui aiment le produit, qui aiment les produits authentiques avec une histoire. Des gens aussi qui, un peu comme une manette de Proust, cherchent à retrouver un peu le vêtement de leur enfance, parce que très souvent, on a des parents qui achètent pour eux-mêmes et aussi pour leurs enfants. Donc, on a les vareuses adultes, les vareuses enfants que l'on expédie pour des gens qui vont se balader à la plage. Et voilà, on a toute la famille habillée en vareuse.
Alors, pour quelqu'un qui n'a pas de vareuse, quel est l'avantage de porter une vareuse sur une plage?
L'avantage, c'est que c'est un vêtement justement qui est assez ample, qui fait un peu veste, entre guillemets, qui coupe bien du vent.
Coupe vent, ouais.
Voilà, et puis voilà, qui fait authentiquement breton.
Alors, autre vêtement breton. Alors là, on va quitter un peu parce qu'il y a aussi le pantalon.
Voilà, le pantalon.
Pêcheur. Mais
la même toile, mais.
Moi, il y a autre chose qui m'intéressait, c'est que le Glazik continue à faire des cabiques. Alors, je sais que beaucoup de gens qui nous écoutent ne savent pas ce que c'est un cabique. Et moi, j'aimerais que vous expliquiez la différence entre un cabique et un duffelcoat.
Alors, le cabique, donc, dans ce nom breton, Cab an Aod, c'était vraiment le manteau des pêcheurs de grève, donc des goémoniers.
Des pêcheurs
de grève, c'est-à-dire de toutes les personnes qui restaient vraiment sur la grève, donc en bord de mer, qui ne prenaient pas le bateau. Donc, ils avaient besoin d'un manteau assez long, du coup. Donc, il y a plus besoin, comme pour le caban, de longueur mi-cuisse pour ne pas être gêné sur un navire. On avait plus ce problème-là. Donc, c'est pour ça que le cabique, c'était un manteau long. C'était un vêtement qui avait besoin aussi d'un capuchon pour se protéger. Là encore, on risquait pas de se prendre dans des cordages. Il n'y avait pas ce problème-là. Donc, on avait un capuchon.
Capuche.
Voilà, le capuche ou capuchon, voilà. On avait également une poche ventrale pour protéger la main qui ne travaille pas du vent et de l'humidité.
Et les boutons?
Les boutons, c'était des cabillauds, donc en bois de buis, comme aujourd'hui on les a toujours, parce que c'était un bois très résistant et que c'était un cabillaud était plus facile à mettre en fait avec des gants. Voilà. Il y avait aussi des crantages.
Oui.
Pour justement...
C'était quoi d'ailleurs? Je croyais que c'était de la déco. Moi.
Alors non, c'était justement pour lutter contre l'usure du vêtement.
Ah.
Une fois que c'était cranté, ça s'usait beaucoup moins.
Et marine, bien évidemment.
Voilà, marine principalement. Encore une fois, on retrouve le vêtement professionnel.
Et la différence avec le duffelcoat alors?
Alors le duffelcoat, déjà, c'est un vêtement anglois.
Voilà, c'est ça.
C'est un vêtement breton. Le duffelcoat, c'était donc ça vient du mot duffel, donc la ville de belge auprès de laquelle les Anglais achetaient leurs draps. Donc c'était un vêtement vraiment de, on va dire de car, à la fois sur les navires, mais à la fois en dehors des navires. Donc c'était là encore un vêtement assez long, mais qui n'avait pas encore ce crantage comme on peut retrouver sur les cabiques.
Et il y a aussi une différence au niveau de la boutonnière.
Au niveau de la boutonnière, il y a des brandebourgs. Parce qu'encore une fois, les Anglais reprenaient un peu l'uniforme des vêtements prussiens. Donc avec cette attache très caractéristique. Donc une attache en cuir pour bien fixer la cordelette au vêtement. Et donc une corne. Donc le tout forme le brandebourg.
Le
brandebourg.
Brandebourg. Et la longueur, donc, c'était au niveau des genoux. Comment ça se...
Alors, le duffle coat pouvait être un peu moins court que le cabic, mais c'était resté un vêtement long.
Alors vous, chez le Glazik, vous continuez à en faire, cabic, voilà. Et duffle coat.
Cabic principalement.
Mais vous ne faites pas des duffle coat?
On fait quelques duffle coat, oui.
Qu'est-ce qui se vend le plus?
Le cabic se vend le plus, parce que justement, comme c'est vraiment typé breton, bien ça revient justement parce que les gens recherchent ce type de vêtements, même si celui qui tient un peu la corde, ça reste le caban, parce que c'est encore une fois un vêtement vraiment universel, intemporel, iconique.
Ah bah c'est devenu, voilà. Maintenant tout le monde, même les marques de fast fashion fabriquent des cabans, donc voilà. C'est vraiment...
C'est un vêtement qui s'est démocratisé.
Et le cabic, donc, vous le faites, vous continuez à le faire avec la poche, j'ai vu ça.
Avec la poche ventrale, on a deux versions, une vraiment qui reprend le cabic ordonné avec la poche ventrale, et puis une sans la poche ventrale qui fait un peu plus manteau.
Mais je crois qu'il y a une autre différence aussi avec le duffle coat, c'est que le cabic n'est pas doublé, c'est ça?
Alors effectivement, les cabics pouvaient être doublés. Nous, on le fait sans doublure.
Ouais, c'est ça, le cabic original n'a pas de doublure, c'est vraiment le drap de laine pur.
Voilà.
Et le duffle coat, lui, il est rembourré. Enfin...
Il avait plus souvent une doublure, parce que justement, c'était un vêtement qui pouvait être porté par des marins ou des soldats, justement, en faction. Donc, il fallait une doublure pour protéger du froid. Mais le vrai cabic n'avait pas de doublure, sauf si les gens décident de la rajouter.
Donc, les doublures écossaises, c'est finalement pas une tradition.
Non, c'est pas une tradition, sauf éventuellement sur le duffle coat.
Alors, si on n'habite pas en Bretagne, en bord de mer ou en Normandie, comment on fait pour, si on a envie de s'acheter un vêtement Le Glazik?
Alors, les vêtements Le Glazik sont principalement vendus sur la côte atlantique. Vous avez d'autres magasins plus à l'intérieur des terres. Mais c'est vraiment en majorité sur la côte atlantique que vous pouvez les acheter, notamment dans les distributeurs que vous pouvez connaître, comme les Contours de la Mer.
Oui, mais si je ne vais pas en Bretagne ou autre, comment
Alors,
je fais?
Après, vous pouvez vous rabattre sur le site internet. Leglazik.fr.
Leglazik.fr. Et là, vous avez, je vous encourage à y aller parce que vous avez toutes les photos de l'histoire de Le Glazik et c'est vraiment extraordinaire. Tous les objets, il y a même des vidéos que l'on diffusera sur Fashion Gasoil. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci pour cette petite visite dans l'Ouest et à très bientôt.
Merci.
Et longue vie à Le Glazik.
Merci, Le Glazik passera.
Voilà, Le Glazik tiendra.
Le temps passera, Le Glazik tiendra.
C'est bien dit. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites,
according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.